Ok, alors bonsoir. Alors je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez eu le titre de cette étude qu'on va faire ce soir. C'est-à-dire que dans le Talmud, on parle beaucoup des relations hommes-femmes. Et il y a des passages qui sont, me semble-t-il, fondamentaux, peu connus. Et il me semble que ça vaut le coup de les voir ensemble, même si ça paraît un petit peu, ça touche des choses très intimes, et intimes, indiscrètes, et il est possible aussi qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, évidemment. Les deux passages que nous allons voir sont des passages absolument centraux. Il y a 5 ans, à la Yeshiva, à l'époque, on était rue Cadet, on a fait une journée d'études sur le thème que nous allons voir, là. Bien. Ok, donc on va commencer par un passage dans le traité Psachim. Je vous passe les photocopies. Alors, c'est Daf Memtet Amud Bet dans le traité Psachim, c'est-à-dire 49B. Voilà. Alors, je vous ai mis sur la photocopie, je vous ai mis une flèche où ça commence, hein. Alors, si vous voulez, en un mot, je dirais, en un mot, il me semble que tout un chacun et tout un chacune dans la vie, on a besoin, je dirais, d'une analyse. C'est-à-dire, il y en a, il y a 100 ans, un peu plus, le bon Sigmund Freud, il a lancé la psychanalyse, mais même si n'eût point eu Freud, je pense que c'est quelque chose, c'est un besoin vital chez l'humain d'analyser et de s'auto-analyser et d'avoir des outils pour le faire. Il faut des outils. Donc c'est pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça peut être ça, mais il me semble que dans notre tradition, le Talmud est une forme d'étude approfondie du Talmud et une forme d'analyse. Ce n'est peut-être pas la seule vertu à l'étude approfondie du Talmud, mais comme on va le voir, indéniablement, il y a des outils pour une analyse, une introspection, et sur des choses à la fois on aimerait passer dessus, ou ça touche des choses peut-être trop intimes. On va voir. Ok. Alors, je vous ai mis un trait. Là où ça commence, Daf Memtet Amud Bet dans le traité Psachim. Alors, Tania, on enseigne dans un enseignement qui a, grosso modo, 1900 ans. Hein. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, donc dimanche, c'est la Iloula de Rabbi Meir. C'est la Iloula de Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, c'est un des grands élèves de Rabbi Akiva. C'est la génération après la destruction du Second Temple. Bien. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait Kol amesi bito le ama aretz keilu kofta umanicha lifne ari. Tout celui qui marie sa fille à un ignorant en Torah, c'est comme s'il la ficelait et la mettait devant un lion. Ma ari doches veorel venlo bochet panim af amaretz make u boel venlo bochet panim. Je vais traduire évidemment, mais je ne veux pas choquer, mais quoic. Mais il est possible que ce que je vais traduire, vous ne soyez pas d'accord, hein, je préviens. Hein. Okay. Donc, tout celui qui marie sa fille à un ignorant Torah, c'est comme s'il ficelait sa fille et la mettait devant un lion. Ma'ari dores ve'ochel ve'lo bochet panim, de la même manière que le lion, il foule avec ses pattes et il mange. Il n'en a aucune honte. Évidemment, c'est un lion. Hein. Un lion, c'est un lion. Il n'y a pas de problème à être un lion. Un lion, c'est un lion. Donc un lion, quand il... vous avez vu les feuilletons, les films de... comment dire, de National Geographic. Oui. Vous voyez, un lion, il y a une gazelle. Il y a une gazelle, et eh bien il saute sur la gazelle, il lui donne des coups et il la bouffe encore vivante, la gazelle. Et est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. C'est un lion et c'est une gazelle, c'est un lion. Sinon, c'est naturlich. Ok? Bien. Alors, de la même manière que le lion, Dores Veochel, il foule avec ses pattes et il mange. Et il ne voit aucun problème. Af amaretz, de la même manière, l'ignorant en Torah, make ou boel, il donne des coups et il s'accouple et il n'y a pas de problème. Non problème. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, ça commence machisme et judaïsme. Voilà. Machisme, aussi violence conjugale. Voilà. J'aurais dû appeler ce cours violence conjugale et judaïsme. C'est un témoin un peu moins glamour que le thème que j'ai mis. Bon. Donc, de la même manière que le lion dores ve'ochel. Alors regardons Tosfot. Regardez Tosfot. Alors Tosfot, c'est-à-dire ce sont Tosfot, c'est en l'occurrence le commentaire que nous allons voir, c'est petit-fils de Rashi. Il est cook. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'image, si vous voulez? C'est quoi l'image de ce dont on parle? C'est un lion, il est, en hébreu, il est Dores. Le lion Dores. Ça veut dire, le lion, il saute sur la gazelle et il commence à la manger avant qu'elle soit morte. C'est quoi l'image? Regardons le commentaire de Tosfot, ces petits commentaires-là. Ma'ari dores mochel, de la même manière que le lion, il foule avec ses pattes et il mange. Piresh Rabbeinoutam, explique Rabbeinoutam, petit-fils de Rashi. Dores mochel, en mamtin achetamut, c'est-à-dire le lion, il foule avec ses pattes, il n'attend pas que la gazelle meure. Il la mange vivante. Et alors, quel est l'équivalent dans les relations hommes-femmes? Afamaretz, la même manière, l'ignorant en Torah, Eno mamtin achetit payes, il n'attend pas que sa femme soit participe du jeu, si vous voulez. Il n'attend pas qu'elle ne participe. Voilà. Il n'attend pas chez Tite Fayès, ça veut dire qu'elle soit disponible. Il n'attend pas qu'elle soit disponible à ce qui est en train de se passer. Alors, ce texte est choquant quand même. Parce que, et le texte dit un peu plus fort que ça, c'est qu'il force, il donne des coups. Il peut donner des coups. Alors, ce qui m'interroge, c'est que ça a l'air radical pour les maîtres du Talmud que si quelqu'un n'est pas investi dans l'étude de la Torah, c'est ça le tableau. Donc il y a deux remarques. Premièrement, ça a l'air d'être une calamité, que c'est comme ça qu'il y a une violence finalement dans les relations homme-femme, s'il n'y a pas d'étude de la Torah. La contraposée soulève une question, qu'est-ce que l'étude de la Torah a à voir avec ce sujet ? L'étude de la Torah, c'est, je ne sais pas, étudier les lois de Shabbat, étudier les lois de Kashrout, étudier du droit civil ou du droit pénal. On ne voit pas le lien entre l'étude de la Torah et ce domaine. Qu'est-ce que ça a à voir, l'étude de la Torah, avec ce domaine ? En quoi un talmudiste, parce que tu as une vision assez binaire du monde, selon les maîtres du Talmud, tu as l'ignorant et tu as le talmudiste. Mais il n'y a pas entre les deux. En quoi est-ce une calamité, la violence, si vous voulez, enfin, violence conjugale, ça veut dire qu'une incapacité qu'il y ait un partage, en vérité, entre l'homme et la femme dans la relation sexuelle. Ça a l'air d'être une calamité. Et en quoi l'étude de la Torah a à voir avec ce sujet ? Qu'est-ce que ça a à voir, l'étude de la Torah, avec ce point précis ? L'étude de la Torah, ça, je ne sais pas, moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut apporter chez l'être humain. Mais pourquoi dire que c'est sur ce point le qui est visé ? Hein ? Ok. Si vous voulez des textes, il reste des textes, ou alors vous copiez sur les voisins. Ok. Donc ça, c'est la question. Ça veut dire c'est ça la question. Alors, il y a une page entière dans le Talmud sur ce point. Une page entière qu'on va essayer de faire. C'est dans le traité Eruvin. Je vous passe des photocopies. C'est le texte qu'on a vu dimanche matin. Donc c'est Daf Kouf Amoud Bet dans le traité Eruvin. Kouf Amoud Bet, c'est-à-dire 100B. Dans le traité Eruvin. Donc, je mets en relief la problématique. Je remets en relief la problématique. Le Talmud dit que celui qui marie sa fille, c'est une grande responsabilité que sa fille épouse un ignorant en Torah, car c'est sûr que quelqu'un qui épouse une fille qui se marie avec un ignorant en Torah, c'est sûr qu'elle va être forcée par son mari. Entre parenthèses, ce que je vais vous raconter n'est pas du tout une étude sociologique sur le sujet. Mais néanmoins, une fois, je suis allé voir un ami, qui est un ami dentiste. Ça arrive, les dentistes, vous avez déjà vu. Et un super cabinet de dentiste au cœur de Paris, hyper luxe. Et il me présente sa collaboratrice. C'est un garçon qui vient du Maroc. Il me présente sa collaboratrice, qui vient, elle aussi, une jeune femme qui vient du Maroc. Et je peux vous dire que quand on voit quelqu'un de beau, on doit faire une bénédiction. Et cette personne était d'une beauté stupéfiante. Cette jeune femme, une beauté stupéfiante. Il me dit, oui, donc ma collaboratrice, elle veut vous parler. Okay. Elle m'a dit que elle, donc, c'est une jeune dentiste et qu'elle est en instance de divorce parce que son mari la barre. La tabasse. Son mari la tabasse. Elle m'a dit, j'ai fait une grande erreur. Bon, c'est un peu le problème. Nous, les Juifs, on est un peu tous des immigrés. Insertion sociale. Elle s'est mariée avec un Juif qui a une très bonne situation, un banquier. Donc, c'était idéal. Un beau gosse juif, banquier, très bien. Résultat, tabassé. Ah, j'étais stupéfait quand même, parce que c'est pas du tout la personne que tu as envie de tabasser, tu vois. Non, excusez-moi l'expression, mais c'est je sais pas, comme ça, ça te viendrait pas a priori à l'idée, quoi. Vraiment, excusez-moi l'expression, c'est une si belle femme, tu te dis, c'est pas. T'as plutôt envie d'être gentil avec, je sais pas, a priori. Tabassé. C'est une preuve de rien. Mais c'est un fait. Hein. Enfin, un fait. Ça n'apporte une preuve de rien, mais elle m'a dit. Elle m'a parlé de ces histoires. Okay. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, si ça paraît grossier, mais Rabbi Meir se permet de dire qu'un ignorant en Torah, peut-être, il n'envoie pas sa femme à l'hosto, mais dans le fond, c'est la même chose. Il y a quand même beaucoup de gens ignorants de Torah sur Terre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Et alors, qu'est-ce que nos maîtres veulent dire par là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Alors, on va passer donc par ce passage sublime dans le traité Eruvin d'Av Kouf Amoud Bet. Alors, on va y aller petit à petit, hein? Léat, léat, étape par étape. Ça commence là. Là, je vous ai souligné Ama Rami Bachama. Ama Rami Bachama, Rami Bachama dit Ama Ravassé au nom de Ravassé. Assour la dame chez Yakouf Ishto Ledvar Mitzvah. C'est interdit pour l'homme qu'il force sa femme pour la parole de mitzvah. Alors, notre tradition est très pudique. On a beaucoup de pudeur dans notre tradition. On parle par métaphore. La relation intime entre l'homme et une femme, ici, ça s'appelle dvar mitzvah, parole de mitzvah. Dvar mitzvah. Mais bien que ce soit une image, néanmoins, on peut prendre n'importe quelle paraphrase. Donc ça veut dire que la relation entre un homme et sa femme s'appelle parole de mitzvah. La relation intime entre un homme et sa femme s'appelle parole de mitzvah. C'est une image. Mais ils auraient pu prendre beaucoup d'autres images. L'image prise, ça s'appelle parole de mitzvah. Ok. Alors, Rami Bachama nous dit, au nom de Ravassé, il est interdit à l'homme qu'il force sa femme pour la relation intime. Bien. Chez Néma, il rapporte un verset dans les proverbes de Salomon qui dit « Ve'atz bereglaim fote » Celui qui force avec ses jambes, c'est un fauteur. Celui qui force avec ses jambes, c'est un fauteur. Bien. Alors, on peut imaginer que le type, il a beaucoup envie de sa femme. En soi, c'est très bien. Alors, dans notre tradition, les relations entre un homme et sa femme, c'est Kodesh Kodashim. C'est la base. C'est la base. Tellement la base, Maïmonide dit, la preuve que c'est la base, c'est que la vie vient de là. Donc c'est fondamentalement, c'est pas seulement positif, mais fondamentalement, c'est mitzvah. Fondamentalement, c'est mitzvah. La preuve, c'est que dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints au Temple, il y a l'arche d'alliance. Oui. Revisionner. Comment il s'appelle là, le truc Harrison Ford. Indiana Jones. Revisionnons Indiana Jones. Oui. Et au-dessus de l'arche d'alliance, vous avez les chérubins. Vous voyez, les Kruvim, les chérubins, qui sont, représentent un jeune homme et représentent une jeune femme. Le Talmud dit que, quand bien même était-il en or, c'était finalement des statues, mais lorsque les enfants d'Israël allaient aux trois fêtes, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, les Kohanim ouvraient le rideau et ils voyaient les Kruvim qui s'enlaçaient l'un l'autre. Ils représentaient un jeune homme et une jeune femme qui s'enlacent, qui montraient l'amour profond qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël, qui se représente entre un jeune homme et une jeune femme. Quand je dis qu'ils s'enlacent, c'est aussi une métaphore. C'est une métaphore, on apprend du verset que c'est plus que s'enlacer. Alors, donc ici on voit que la relation intime est quelque chose de central dans l'existence humaine. Entre un homme et sa femme, ils s'entendent. Maintenant, la question est, il dit, il rentre, je ne sais pas, il est tout à fait amoureux de sa femme, elle est en train de préparer la pkaïla pour Shabbat. Elle dit, je ne crois pas que c'est le moment. Et il la force. Bon, plusieurs manières de forcer. Peut-être pas forcément plus violemment que ça, mais en tout cas, elle n'est pas disponible. C'est interdit. Où est-ce qu'il trouvait un interdit ? Où c'est interdit ? Où est-ce qu'il y a un interdit ? Ça correspond à quelle mitzvah la Torah ? Il a... Je comprends pas, moi, cette histoire. C'est comme le lion qu'on a vu dans le truc d'avant. Je sais pas, moi, c'est sa femme. Bon, Tapkaïla, elle ne veut pas brûler, je veux dire. ça va, mets sur la feu doux. On verra plus tard. Elle n'est pas disponible. Interdit. Pourquoi c'est interdit ? Où il a trouvé un interdit pareil ? Dans quel interdit ? Il y a des choses interdites dans la Torah. Il y a des choses interdites dans la Torah. C'est quoi ? Je ne sais pas, moi, on n'a pas le droit de manger de la langouste. Pas le droit de manger de la langouste. Okay. Ok, pas pas le droit de prêter intérêt à un juif. Pas le droit de prêter intérêt. Ok. Pas le droit de prêter. Ah. Pas le droit de prêter intérêt. On en sort un troisième. On n'a pas le droit, je ne sais pas moi, d'avoir dans son vêtement du lin et de la laine, du chatnez, avoir dans un vêtement du lin et de la laine, lin et laine mélangé, lin et laine mélangé, c'est prohibé. Nous en sommes un quatrième, travailler Shabbat, c'est interdit. Bon, il y en a 65, 300, il y a, combien ? Il y a 365 interdits, ok. Je vous ai emmené sorti 1, 2, 3, 4. C'est ici. Langouste. Ouais. Dites tout de suite que j'écris mal. Ok. Alors maintenant, où c'est écrit qu'on n'a pas le droit de forcer sa femme si elle n'est pas disponible? Ça ne correspond pas à quel interdit. Ça perd les popettes. Vous avez déjà entendu un truc pareil ? Assour. C'est écrit Assour l'Adam. Le texte dit c'est interdit pour Adam. On a déjà vu avec monsieur, ici présent, que quand on voit dans le Talmud le terme Adam, ça veut dire que ça intente à ce qui s'appelle Adam. Dieu a créé Adam. Eh bien, c'est contre Adam que d'aller avec sa femme si elle n'est pas disponible. Où c'est interdit ? Où on trouve un tel... On ne peut pas inventer un interdit comme ça. Je vous dis, c'est interdit de fumer des clopes. Voilà. Vous allez me dire, où c'est écrit ? Voilà. Je vous dis, c'est interdit de fumer des cigarettes. Où ? Dis-moi, où c'est écrit ? Où c'est écrit ? Il m'apporte un verset dans les proverbes de Salomon. Classe. Qu'est-ce que c'est ? Interdit, c'est interdit. Où c'est interdit ? Continuons. Continue. Vu Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, et Rabbi Yoshua ben Lévi dit, donc c'est la suite, Vu Amar Rabbi Yoshua ben Lévi, Kol hakofe ishto ledvar mitzvah, avya lo banim she'enam uganim. Toute personne qui contraint sa femme à la relation, ses enfants ne sont pas convenables. Ça veut dire que dans la conception, il y a un hiatus. Il y a un hiatus dans la conception. C'est terrible ça. Chez Enam Oganim, les commentateurs expliquent. Ça c'est la conception des maîtres du Talmud, que notre personne, c'est le fruit d'une rencontre entre un homme et une femme. L'homme amène la semence masculine et la femme va recevoir cet enfant qui va se construire, se former petit à petit à l'intérieur d'elle-même. Il y a donc une volonté de réception de l'homme qui va faire cette union, qui va s'appeler l'enfant. Mais si la personne qui va recevoir ne veut pas, elle n'est pas disponible, il y a un hiatus intérieur. Il n'y a pas d'union, finalement. Il n'y a pas d'union, même si cette personne, elle peut se trimballer dans la rue. Mais il y a un hiatus que nos maîtres mettent en exergue. Il me semble d'ailleurs que d'un point de vue analytique, chacun a des problèmes. Je dis souvent, chacun a des problèmes. Par exemple, ils sont bêtes. Ouais. C'est un problème. Un imbécile. C'est un problème. Être bête, c'est un problème. Mais c'est connu que les enfants surdoués, c'est des fois aussi un plus gros problème. Être intelligent, c'est peut-être un plus gros problème que d'être bête. Alors, par exemple, il y en a, ils sont complexés d'être séfarades. Il y en a, ils en ont marre d'être ashkenaz. Non, ça veut dire, ça veut dire, on s'en sort pas. Tous, on a des problèmes. Tous, on a des problèmes. Il y en a, il est pauvre, il est complexé d'être pauvre. L'autre, il est riche, il en a marre d'être riche. Ça veut dire, chacun a ses problèmes. D'ailleurs, les Chachamim disent que l'épreuve de la richesse est plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Donc on est mal barré. On est mal barré. Ici, il y a une problématique spécifique. Peut-être elle est surmontable. Peut-être elle est surmontable. Mais je vous donne un exemple qui est à méditer et qui est ce dont le Talmud parle. Vous savez qu'il y avait un avocat qui se disait lui-même que c'était, il disait lui-même, je suis un salaud, c'est Jacques Vergès. Jacques Vergès, vous avez entendu parler de Jacques Vergès, c'était et dès qu'il y avait une affaire, un salaud, un grand salaud, il était là pour le défendre.
Il avait défendu Klaus Barbie.
Comment ? Klaus Barbie. Entre autres, mais Barbie, en l'occurrence, mais il le disait sciemment. Il le disait sciemment, il disait « je suis un salaud ». Et il a expliqué que lui-même, si je ne m'abuse, c'est l'enfant d'un viol. C'est un enfant d'un viol. Alors ici, on ne parle pas forcément de la dimension de viol, puisqu'on parle entre un homme et sa femme. Entre un homme et sa femme. Mais il dit, si la femme n'est pas disponible, l'enfant a une difficulté spécifique. Si la femme n'est pas disponible, l'enfant a une difficulté spécifique. Ça, c'est ce que le Talmud nous dit. Ça, c'est un enseignement d'il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'est-à-dire, quand je dis il y a 2000 ans, c'est peut-être plus que 2000 ans, mais ça a été rédigé il y a 2000 ans. Alors, je reprends. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, alors, pour bien apprécier ce qu'on va voir, comprenez bien que ce qu'on va voir a été rédigé il y a grosso modo 1700-1800 ans. Je pense que c'est important de percevoir cela. Ce qu'on va voir, Rabbi Yoshua ben Levi, ça fait 1800 ans, 1700 ans. Je pense que c'est important de savoir pour pouvoir apprécier ce qu'on va voir. Rabbi Yoshua ben Levi dit, « Vama Rabbi Yoshua ben Levi, kol hakofe ishto ledvar mitzvah, tout celui qui force sa femme dans la relation intime, il a des enfants qui ne sont pas tov. » Ce qui ne sont pas tort. Il y a un hiatus.
Il y a un hiatus. C'est le truc exact qui est dit.
Comment ? Meouganim.
Meouganim.
Ougan, ça veut dire bien. Ils ne sont pas bien. Il y a un hiatus. Il y a un hiatus. Amar Ravika Bachinana, Maïkra, Ravika Bachinana dit, de quel verset apprenons-nous cela ? Il y a un verset dans les Proverbes de Salomon qui dit, Gam belo da'at, Nefesh l'otov. S'il n'y a pas le da'at, s'il n'y a pas la présence de la femme, l'âme n'est pas bonne. Puisque la conception, c'est une union. La conception, c'est une union de l'homme et de la femme qui reçoit l'homme. Mais si la femme, elle n'est pas disponible, alors évidemment, il y a l'âme, il y a le corps. Mais il n'y a pas une union. Cet enfant, il y a un hiatus. Il y a le corps, il y a l'âme. Mais il n'y a pas cette union. Il n'y a pas de tov. Tov, c'est une harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie. Et le Talmud continue. Tanya Nami Achi, il y a un enseignement, donc là, peut-être même un enseignement de 2000 ans, qui dit « Tanya nami achi, belo da'at nefesh lotov ». Que veut dire le verset « sans présence, l'âme n'est pas bonne ». « Ze akofe ishto ledvar mitzvah ». C'est celui qui force sa femme, sa propre femme, ça veut dire, ils sont mariés légitimement. Celui qui force sa propre femme et qu'elle n'est pas disponible. Mais Hatz Bereglaim Choté, la suite du verset dit, celui qui force avec les jambes sa fauteur, Zéaboel Véchené. Ça, c'est celui qui va avec sa femme et qui va une deuxième fois avec sa femme. Regardez, mes amis, c'est quand même le merveilleux Talmud. Non, je sais pas, moi je me kiffe à faire des trucs, à étudier des trucs comme ça. Ça, c'est un passage classique du Talmud. Ça veut dire un jeune de 17 ans, de 18 ans, qui étudie le Talmud dans une yeshiva, il connaît ce passage. Je ne vous ai pas sorti un passage de Derer les Fagots inconnu au bataillon. Ça, c'est un passage classique du Talmud. C'est-à-dire, un jeune de 17 ans qui étudie dans une yeshiva, il a étudié ce passage. Étudié ce passage. C'est un passage connu du Talmud. Voilà. Que le Hatzbiragrim Choté, ça veut dire il est allé avec sa femme et il va une deuxième fois avec sa femme. Alors ça, c'est une faute. Là-dessus, le Talmud dit, mais non, bien au contraire. C'est super. Inni, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le Talmud dit non, il y a un enseignement qui dit le contraire. Vamar Rava, Rava, grand maître du Talmud, dit Arotse la sod kolbanav zrachim, ivol veishne. Celui qui veut n'avoir que des garçons, celui qui veut n'avoir que des garçons, qu'il aille avec son épouse et aille ensuite une deuxième fois avec son épouse. Donc, pourquoi? On va voir. Alors, Rashi explique. Rashi explique de manière absolument sublime. Rashi explique de manière absolument sublime. Ça veut dire que si la femme, l'émotion féminine précède l'émotion masculine, les Chachamim nous disent que c'est propice à ce qu'il y ait un garçon qui soit conçu. Donc si vous voulez planifier 4 garçons, 3 filles, ou 4 filles, 3 garçons, alors il y a la méthode ici dans le Talmud pour avoir des garçons. Comment? C'est faire en sorte que la femme soit émue émotionnellement avant l'homme. Comment? En allant une deuxième fois avec elle. Regardez Rashi. Alors Rashi, c'est 11e siècle, hein, ça veut dire Rashi, ça fait 850 ans. Rashi, ça fait 850 ans. Ivol Vishne, maintenant, je ne sais pas si tous et toutes, vous pouvez voir Rashi, mais regardez, c'est comme ça. Ivol Vishne. Donc on voit qu'il y a quelque chose de positif, de hautement positif, d'aller avec sa femme et d'aller une deuxième fois. Alors comment ça se fait que tu dis aller avec sa femme une fois, une deuxième fois, c'est une faute, c'est une contradiction. Contradiction. Alors le Talmud répond, Kan le da'at, kan shelo le da'at, c'est-à-dire, si elle est consentante pour une deuxième fois, si elle est consentante pour une deuxième fois, alors là c'est top. Mais si elle n'est pas consentante, il ne faut pas forcer. Si elle est consentante pour une deuxième fois, alors notez, c'est top. Mais si elle n'est pas consentante, alors il faut s'abstenir. Rashi explique en quoi, si elle est consentante, c'est top. Regardez le commentaire de Rashi. Donc Rashi, je vais vous dire, c'est avant Freud. Non, que les choses soient claires. C'est avant Freud, c'est avant Wilhelm Reich. Vous connaissez Wilhelm Reich? Non? Wilhelm Reich? Comment? T'as pas Wilhelm Reich?
La révolution sexuelle? Ah, Wilhelm Reich.
Wilhelm Reich, C'est un génie du XXe siècle. Peu connu aujourd'hui, tu dis Wilmreich, c'est quoi? C'est une marque de ketchup? Non, je sais pas. Mais bon, Wilmreich, c'est un des penseurs qui sont à la base de ce qu'on appelle la pensée de mai 68. Alors, il dit, si elle est consentante, c'est top. Pas seulement une fois, mais même une deuxième fois. Si elle n'est pas consentante, tu t'arrêtes. Rashi explique. En quoi c'est top? Il va lever Ishné. Chez Mahmat, alors j'insiste, au risque d'être lourd, j'écris au tableau, au risque d'être lourd. Parce qu'après, vous allez me dire, mais il est lourd. Il faut savoir que ce que nous voyons ce soir, c'est notre tradition, la tradition juive la plus centrale. Tu veux un texte? Je ne sais pas. Ok. Bien. C'est-à-dire, on est dans des textes centraux de notre tradition. C'est pas du tout périphérique, c'est central. Rashi explique. Yvol Vishne, donc Rashi, c'est peut-être le plus grand commentateur. Regardez, qu'est-ce que peut-être notre plus grand commentateur explique. Chez Mahmad Biya Rishona Nitava Aisha, par la première relation, la femme s'éveille à son désir. Veol Vasha Tava, elle est habillée par son désir. Au Kesheba, Biya Shnia, quand ensuite le mari revient avec elle, Imazra Techila, alors elle est encore plus disponible à son émotion que l'homme. Donc elle s'est éveillée à son émotion, finalement, avant l'homme. Comme on avait dit, si vous voulez que nos maîtres disent que la relation, c'est une rencontre. Et il y a un certain hiatus entre la précipitation de l'homme et un autre rythme qui se trouve chez la femme. Tout à fait un autre rythme. En général, il y a un hiatus. Comment est-ce possible qu'il y ait même que elle soit éveillée avant l'homme? Alors les Rachamim disent, eh bien, par la première relation, elle s'éveille, à la limite, elle est presque dans une frustration, mais par la deuxième, elle arrive donc à son épanouissement. Ça, c'est ce que les Rachamim disent. Continuons. Alors, le Talmud continue, et regardez, on va aller 7 lignes avant la fin de la page. 7 lignes avant la fin de la page. D'Amar Rabbi Chiya, 7 lignes avant la fin de la page. Rabbi Chiya dit, Mal dirti, il y a un verset dans Job, dans le livre de Job, Rabbi Chiya dit, Maï dirtif, que dit le verset dans Job? Milfano mi bamot aretz ou meof ashamaim yachakemeno. On peut apprendre, donc Job dit, qu'on peut apprendre des animaux de la terre et on peut devenir chacham en voyant comment les oiseaux se comportent. Si tu inspectes la nature avec sagacité, tu peux apprendre des choses fondamentales. Quoi, par exemple? Quelles sont ces choses fondamentales? Zoprida, Shekora, Tumashtenet, Maïm. La mule, elle s'accroupit pour uriner. Incroyable. incroyable. Vous avez regardé les mules? Alors, les mules?
Attention la prochaine fois.
Comment?
Je ferai attention
voilà.
la prochaine fois.
Donc, si tu veux, Clément, on va aller au salon de l'agriculture en ce moment. On va regarder comment les mules les urinent. Alors, ils sont baladés, ils ont dit, c'est un truc incroyable. T'as vu les mules? Elles font pas, excusez-moi l'expression pipi comme ça. Elles s'accroupissent et elles urinent. Il y a un truc là. Il y a un truc. On va un peu, on va creuser. Omeo fashamayim yerakemeno, des oiseaux des cieux, on apprend la sagesse. Zetarnagol chez Mefayes Vararkarboel. C'est le coq. Le coq, il ne s'accouple pas avec la poule comme ça. Il lui fait la cour. Et quand elle est contente, il va avec elle. Extraordinaire. Extraordinaire. Le coq. On n'a jamais assez dit la grandeur du coq. Ça, c'est un truc. Ça, c'est la chokhma. Ça, c'est la connaissance. Si Mehmet, si le monde n'était que un problème d'instinct, c'est sûr, chez l'animal, c'est instinctif, c'est dans sa nature, mais pourquoi il ne va pas comme ça, bing? Pourquoi il lui fait la cour? Pourquoi il lui tourne autour? Pourquoi il lui tourne autour? C'est incroyable. C'est le sage du Talmud, c'est incroyable. Et regardez la suite. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, In male nonitna Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre des fondements de la Torah du livre de la nature. Entre parenthèses, du livre de la nature. Il y a... un élève m'a dit que cette année, le devoir de philo du concours d'HEC, c'était le livre de la nature. Point, c'était tout. Santé, une folle. Alors, si personne...
Avec,
quoi
rien à voir avec Gérard. Rien à voir avec Pierre.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé en donnant ce thème à HEC. Mais si on m'avait demandé, si on m'avait donné ce sujet, moi j'aurais amené ce passage. J'aurais amené ce passage. Que est-ce que la nature nous enseigne quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de la nature? C'est un vaste sujet. Là, Rabbi Yochanan dit, disons qu'il n'y ait pas la Torah. Si tu regardes avec émerveillement ce qui se passe autour de toi, tu peux apprendre la Torah de la nature. Apprendre la Torah de comment? On aurait appris Tzniut Mechatul. On aurait appris la pudeur du chat. Rashi explique, qu'est-ce qu'il a le chat? Rashi explique, chez nous, Matil Rei Bifnadam, il ne fait pas ses besoins devant les hommes. Il se cache pour faire ses besoins. Devant les hommes, il se cache pour faire ses besoins. Omechase Tsoato, il recouvre ses besoins. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce que c'est ce délire? Si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris la Torah de la nature. Le chat. Le chat, il fait ses besoins de manière pudique. Si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris la Torah de la nature. Du chat, par exemple. La pudeur. Mais où est-ce qu'on parle de pudeur dans la Torah? On parle. Pas loin de manger de la bouffe. On va prêter intérêt de mélanger des habits en lin et en laine, travailler le Shabbat,
Au risque d'être lourd, non, c'est rouge.
Non. Où est-ce qu'on part? Non. C'est vrai, vous étiez plus ou moins, la plupart d'entre vous, à des cours sur l'importance de la pudeur dans notre tradition. Ouais, on ne va pas dire le contraire. On sait que c'est une notion cardinale de notre tradition, la pudeur. Ok. Il dit, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris la Torah des animaux. La pudeur. C'est tellement important, la pudeur. Bon, disons. Disons. Continuons. Gezel, on aurait appris le vol de la fourmi. Rashi explique. Parce que les fourmis, quand elles prennent un grain de blé ou un grain de quelque chose, sa copine ne chie pas ses grains. Bon, ça, le vol, on peut comprendre, c'est structurel. Le vol, on peut comprendre que c'est quelque chose de structurel. C'est pas seulement un problème de pas vu, pas pris, un problème social, de contrat social, mais c'est quelque chose de structurel, et structurel dans la Torah. Ça, on peut le comprendre. Arayot Meyona. On aurait appris Arayot Meyona les interdits sexuels de la colombe et de la colombine. Parce que nos maîtres disent que la colombe, pourquoi on dit la colombine, colombe et colombine, c'est que les colombes sont fidèles. On aurait appris la fidélité des colombes. Un couple de colombes, c'est toute leur vie ensemble. C'est beau, hein? Toute leur vie ensemble, la colombe et la colombine. Donc, tu pourrais te dire, ça, cette dimension de fidélité, c'est vrai que chez la colombe, c'est instinctif, mais si vraiment on n'était que pulsion, si vraiment le monde ne fonctionnait que sur des pulsions, pourquoi la fidélité? Pourquoi Monsieur Colombe, il voit une plus jolie colombine que sa colombine, eh bien, il va voir ailleurs. Que nenni. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas que du pulsionnel. Bien que ça soit instinctif chez la colombe, mais dans le monde, il y a des choses qui échappent au pulsionnel. Si on était, si vous voulez, qu'un mouvement darwinien, c'est-à-dire que le meilleur gagne, que le plus fort gagne, que le plus adapté gagne, alors pourquoi la colombe, elle reste fidèle toute sa vie avec la colombine? C'est quelque chose qui interpelle. Bon, ça, on peut comprendre, c'est quelque chose d'important. Continuons. Derereretz metarnagol. Et on aurait appris, si la Torah n'avait pas été donnée, la manière de se comporter entre un homme et sa femme, on aurait appris cette manière de se comporter du coq et de la poule. Qu'est-ce qu'il y a le coq et la poule? Alors regardez, ça c'est, s'il n'y avait que ce passage dans le Talmud, vous découpez, vous gardez les deux phrases suivantes. Qu'est-ce qu'il y a le coq et la poule? Me faillesse vers Carboel. Il amadoue la poule. Il fait me faillesse, il la calme. Il la rend disponible. Il attend qu'il la rende disponible. Il attend qu'elle soit disponible. Il la met à l'aise et après il va avec elle. Et le Talmud dit, quelle est sa stratégie? Maï me faillesse, qu'est-ce qu'il lui dit à sa poule? Qu'est-ce qu'il dit le coq à la poule? Qu'est-ce qu'il dit le coq à la poule? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rav Yehuda, dit au nom de Rav. Ce sont les plus grands maîtres du Talmud qui interviennent ici. Arik Amarla, comme ça il dit le coq. Le coq, il prend ses ailes et il lui fait tout un truc. Ouais. Il l'emmitoufle avec ses ailes. Il lui dit, Zvinaler, il lui parle en araméen. Il lui dit, Zvinaler, ziga de matuler adkaler. Il lui dit, ma chérie, je vais t'acheter un beau manteau qui ira jusqu'à tes pieds. Ah, c'est super. Elle est contente. Une fois qu'il est allé avec elle, les bâtards Rachi, après, elle se dit, bon, il s'est foutu. Il m'a raconté, elle se dit, je me suis fait encore avoir. Amarla, il bouge sa crête. Il dit, tu sais chérie, si j'ai de l'argent, est-ce que je t'ai promis, je ne te l'achète pas, qu'on m'enlève ma crête. Je mets en jeu ma crête. Si j'ai de l'argent et je ne t'achète pas le manteau de que je t'ai promis. The end. Non, c'est vrai que c'est possible que vous ne connaissiez pas l'araméen, je le conçois. Mais j'essaie quand même. Pourquoi je vous amène des photocopies? Parce que pour faire semblant que ce que je vous dis, c'est dans le texte. Alors, regarde Joël, je te le dis dans les mots. Amara, Arik Amarla, ainsi il lui dit. Arik Amarla, ainsi il lui dit, le coq à la poule. Zvinaler ziga de matuler ad karer. Zvinaler. Zvina, c'est comme des avinaba, tu sais, dans Hadgadia. Zvinaler, je t'achète à toi. Ziga, Rashi explique, c'est un manteau. Il dit en français cote. En vieux français, cote de maille. Mais normalement, une cote, c'est pas de maille. Une cote, c'est en tissu. Voilà. Et comme dit monsieur, voilà. Rashi dit en français, c'est un manteau. Zevinar, ziga, des matoulères ad carrer qui t'arrive jusqu'aux chevilles. Je t'achète une robe longue. Ouais, qui t'arrive jusqu'aux chevilles. Alors là, elle est toute. Non, si, je te promets. Là, elle est toute contente. Ma chérie, on va aller faire les soldes ensemble. On va prendre du temps, on va aller faire les soldes. Oh là là, c'est super. Après, il lui dit, parce qu'après, il sent qu'elle est un peu angoissée. Elle se dit, il me raconte toujours des salades. Alors, il m'a encore roulé dans la farine. Elle dit, non. Si je ne le fais pas, qu'on m'enlève ma crête.
Ça aussi, c'est
bien. Voilà. Ça. Il dit, « daouga tanagola, qu'on enlève la crête de ce coq, y etle velos vinaler, si j'ai de l'argent et que je te l'achète. » J'ai de l'argent. Ah, parce que des fois, il y a des coups durs, on verra. Ça veut dire romantique, mais... Alors, Rabotai, ce passage, il est sublime. Donc, c'est la connexion du sublime et du rigolo. Mais à part ça, ce Talmud dit, si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris la manière qu'un mari doit se comporter avec sa femme du coq et de la poule. Si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris ça qui est les fondements de la Torah. Où c'est un fondement de la Torah? Où ça c'est un fondement de la Torah? Où on a vu ça que c'est un fondement de la Torah? J'imagine que quelques personnes parmi vous sont allées dans des synas. Une fois ou deux, une fois à Yom Kippour, disons, on vous a parlé de ça? En quoi c'est un fondement de la Torah? Que on nous dise, j'ai lu, dans ça m'intéresse Junior, une étude qu'il ne fallait pas trop être macho. Oh, d'accord. Que c'est plus sympa si la dame, elle est disponible. Ok, on peut dire. On peut dire c'est plus sympa, disons. Mais en quoi c'est un fondement de la Torah? Où s'écrit il faut qu'elle trouve? Bon, la fidélité, on peut comprendre. La pudeur. Il n'y a que des séminaires sur la pudeur. Oui, la beauté de la femme juive, savoir la femme mariée d'avoir la tête couverte, etc. C'est tzniout. Je suis pas contre. Je suis pas contre, ok, qu'il faut pas. C'est pas dans notre tradition que les bonnes femmes sont décolletées, machin. Ok, d'accord. On peut, à la limite, ça, c'est connu. Ça, c'est connu. D'accord, il faut être un chat. Je vais le dire. Mais en quoi ça, c'est un fondement de la Torah? En quoi c'est un fondement de la Torah? Où c'est un fondement de la Torah? Incroyable. Vous avez déjà vu ça, que c'est un fondement de la Torah? En quoi, ça veut dire, en quoi on a même le contraposé de ça? En quoi tu as besoin de la Torah pour ça? On pourrait dire que c'est quelque chose de vraisemblable. C'est quelque chose de vraisemblable. En quoi a-t-on besoin de la Torah? Tellement on a besoin de la Torah que le premier texte que je vous ai passé dit au nom de Rabbi Meir que quelqu'un qui n'est pas dans l'étude de la Torah, il n'est même pas au niveau du coq. Il n'est même pas au niveau du coq. En quoi on a besoin de la Torah pour quelque chose qui est, somme toute vraisemblable, même s'il n'est pas réaliste. Il est souhaitable, mais pas réaliste peut-être. Talmud nous dit que ce n'est pas réaliste. Mais comment, où la Torah elle a à se situer là-dessus? Alors pour vous mettre à l'aise, j'ai réfléchi des années à cette question. Donc réfléchissez quelques minutes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Torah, cette histoire?
Peut-être que l'étude de la Torah nécessite justement la même approche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer, il ne faut pas foncer dedans, il faut amadouer, pouvoir s'imprégner, pouvoir récupérer le suc, il faut pouvoir éventuellement s'investir dedans et pouvoir être autour et non pas foncer dedans littéralement.
Très bien, très bien. C'est-à-dire que, je reprends ce que M. Guigui dit, très bien, c'est-à-dire que l'étude de la Torah ne se déballe pas comme ça. Il faut rentrer dedans, ça veut dire il faut s'imprégner. Souvent, les textes sont contradictoires. Ce n'est pas le grand message du judaïsme. Quel grand message il est, on ne sait pas. on ne sait pas. Il faut s'imprégner. Peut-être laisser même au texte la capacité qu'il ressorte par lui-même plutôt que par nos idées à nous. Nous, on a des idées, mais quand on étudie sur texte. C'est juste que les kabbalistes disent ce que vous dites. En quoi? Que le texte, c'est comme le désir féminin. Que quand on étudie le Talmud, on fait chanter le texte. On fait s'exprimer le texte, mais pas forcément ses idées à soi. C'est pas ses idées à soi qui sont importantes, mais qui s'expriment quelque chose, qui sortent quelque chose. Un désir, sort un désir. C'est comme par exemple, je me suis toujours posé la question, vous avez déjà vu une mezouza? Faut dire, c'est question idiote, il faut dire oui, Guignol. Évidemment, on a tous vu une mezouza. Alors, c'est quoi une mezouza? Une mezouza, c'est les deux premiers paragraphes du chemin. De la même manière, les téphilines, c'est quatre paragraphes de la Torah, dont les deux premiers paragraphes du chemin ici. Mais pourquoi la mezouza, elle est enroulée? Ce serait plus sympathique de la mettre comme ça, qu'on la lit, à mettre à plat, qu'on la lit. Pourquoi? parce que la Torah, elle ne se donne pas à voir comme ça. Il faut la rechercher. Il faut aller vers elle. On te la met pas comme ça. Il faut qu'il y ait un désir d'aller vers cette Torah et que cette Torah aussi, petit à petit, se dévoile, se mette à jour. C'est deux désirs. C'est une rencontre aussi, la Torah. Donc, ce que vous dites, c'est très bien. Que l'étude de la Torah, c'est pas des idées. C'est pas des idées. Parce que des idées, ce serait peut-être la dimension machiste. La dimension, j'impose mon idée. C'est pas une idée. C'est, on travaille toujours sur le texte. Le texte, c'est vrai. Le texte, il peut dire même plusieurs choses. On attend de faire ressortir qu'est-ce qui sort du texte. C'est un peu comme le désir féminin qui doit petit à petit participer et qu'il y ait cette rencontre. Qu'il y ait une rencontre. Alors, j'ai lu un texte. Un texte. Alors, je ne vous ai pas fait beaucoup de photocopies. Hein, même, je vais vous le lire. J'ai lu un texte de Chassidut, d'un grand maître du chassidisme, qui me semble peut apporter un élément central sur les questions que nous posons. C'est un passage d'un livre qui s'appelle Or HaChokhma. De Rabbi Uri Feivel de Duvanka. Uri Feivel de Duvanka. C'est un élève du Baal Shem Tov. Et il va poser la question. Je reprends. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche ? En quoi ce que le Talmud dit, le coq, que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait appris de la nature des pans centraux de la Torah. Un élément, le coq, comment il se conduit avec la poule? Il ne va pas avec elle comme ça, mais il attend qu'elle soit disponible, contente, à l'aise, confiante. Après, il va avec elle. Fondement de la Torah. Où c'est un fondement de la Torah? Où c'est un fondement de la Torah? Voilà. Où c'est un fondement de la Torah? En quoi c'est un fondement de la Torah? Très bien. Alors, très bien, ben c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Regardez, j'ai quand même quelques tests. S'il y en a, c'est en écriture rachis. S'il y en a qui se débrouillent en écriture rachis, vous pouvez le prendre. Mais il va dire tout à fait ce que vous dites. Il dit, c'est quoi l'alliance? C'est quoi le brit? Il y a une alliance. Il y a brit. Le brit, ça signifie alliance. Brit. Alliance. Mais son commentaire, c'est sur Parashat Tazria qui parle de la brit mila. On peut se poser la question. Moi, je me suis toujours posé la question, et je pense que je ne suis pas le seul. Dieu va faire son alliance avec Abraham. Et le signe de l'alliance, c'est sur l'organe de la production, de la reproduction. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas, il y a un brit. Ouais. Il y a un brit. c'est toujours une grande fête. Toujours une grande fête quand il y a une Brit Mila. Et qu'est-ce qu'on va faire finalement? On va enlever le prépuce de l'endroit de la reproduction du petit garçon. Pourquoi? Le lieu de l'alliance avec Dieu, il est à cet endroit. Il aurait pu faire, je ne sais pas, un piercing dans l'oreille. Ou dans le nez. Pourquoi là? Ou on enlève, je ne sais pas, une phalange d'un doigt. Non, ça vous ne le sentez pas. Comment? Bon, alors, un bout de la fesse. Un tatouage sur la fesse. Jew for God. Ouais, là, tatoué. Ouais, Jew is beautiful. Vous avez déjà posé cette question? Non? Je n'ai pas osé vous poser cette question. Moi, oui. Mais je me suis posé cette question et toc, j'ai vu un commentaire qui pose cette question. Un truc de ouf. Alors, il dit comme ça. Donc ça, c'est première génération du chassidisme. Klal ayotze, principe général. Donc c'est, pour ceux qui ont le texte, c'est là. Klal ayotze. Le principe général. Chez Midat Abrit, it kachrut à Ava. Qu'est-ce que c'est l'alliance? C'est se nouer d'amour. C'est se nouer d'amour. Ma shen ken anche tohu she'en la'em midat abrit. Les gens de néant n'ont pas cette dimension, on va expliquer dans la suite que c'est ces gens du néant. Les gens du néant n'ont pas cette dimension d'amour, de, comment je dis, de se nouer d'amour entre l'homme et son prochain, entre l'homme et sa femme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme. Qu'était l'intention qu'a eu Dieu en nous créant? C'est la question. Quelle est l'intention qu'a eu Dieu en nous créant? Que par nos actions, nous dévoilons dans ce monde la relation que Dieu a avec sa création. Et quelle relation a Dieu avec sa création? C'est une dimension dite kashrut ahava, de se nouer d'amour, de proximité avec sa création. Donc par le brit, par l'alliance, par, ça a commencé avec Abraham, et concrétisé avec le peuple juif qui s'est formé au mont Sinaï, sorti d'Égypte au mont Sinaï, que le peuple juif, qui a commencé avec Abraham, a pris sur lui de dévoiler par nos actions comment Dieu est avec sa création. Comment il est avec sa création? Id kashrut ahava, proximité intense. Donc c'est pour ça que l'alliance se trouve dans le lieu de la proximité. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est que nous, on a pris sur nous de faire connaître comment Dieu est avec sa création. Donc ça veut dire, si l'homme c'est un peu intime, mais regardez, je me permets de voir ça avec vous parce que je pense que c'est des choses. On est tellement dans une civilisation qui a fait de la sexualité une divinité que si on n'entend pas un peu qu'est-ce qu'il y a dans notre tradition, on est complètement à côté de la plaque. Donc, de toute façon, vous regardez n'importe quel film, n'importe quel livre, n'importe quel truc, n'importe. Donc, on est. c'est nécessaire qu'on entende un peu qu'est-ce qu'il y a dans notre tradition, même si c'est un peu intime. C'est un peu intime, qu'est-ce que je vais dire. Il n'y a pas finalement une possibilité d'être plus proche de quelqu'un que dans la relation intime entre un homme et sa femme. C'est une folie, en vérité. C'est incroyable. Comment des personnes peuvent être tellement proches l'une de l'autre? Mais si, en vérité, dans le lieu, il pourrait y avoir la proximité la plus incroyable, qui, en vérité, qu'on peut voir, qu'on peut constater, si les personnes ne sont pas proches, mais que l'un est dans son monde et l'autre dans l'autre monde, ça nous donne l'idée que ce monde, on est jeté dans le monde. C'est ça, un chétohu, qui n'ont pas l'alliance. Les gens du néant qui n'ont pas l'alliance. Que, il y a des gens qui disent, mais Dieu, d'abord je ne sais pas s'il y a Dieu. Il y en a qui vont dire, je ne sais pas s'il y a Dieu. Il y en a après, il y en a qui vont dire, bon, peut-être, j'ai lu dans Science et Vie Junior. Ouais, c'est vraiment la soirée, un télo, hein. J'ai lu dans Science et Vie Junior qu'il y aurait le Big Bang, qu'il y aurait peut-être un Dieu, mais ce Dieu, il est très loin de sa création. Mais comment l'idée que Dieu est loin de sa création, c'est que dans le lieu où il pourrait y avoir une proximité, finalement, les deux personnes sont loin, n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Leur histoire, ils n'ont pas une histoire en commun. Ils n'ont pas de désir en commun. Ils peuvent avoir une pulsion en commun, mais n'ont pas d'histoire en commun, n'ont pas de désir en commun. C'est ça, l'alliance. C'est pour ça que le Brit, qu'Abraham, l'aventure qui va se créer, cette alliance avec Abraham, c'est dans le lieu où deux êtres humains sont étonnamment proches. Mais pas seulement qu'ils soient proches physiquement, mais proches dans ce qu'ils vivent, dans leur histoire, proches dans leur désir. C'est ça ce que nous voyons depuis le début de notre étude, que c'est interdit pour un homme de forcer sa femme, ça veut dire lui de son côté, elle de son côté. Donc ça veut dire, dans le lieu de la proximité, on est loin, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Si tu n'as rien à voir l'un avec l'autre, après tu vas te dire, eh ben dans le monde, il n'y a pas d'ahava, il n'y a pas de proximité. Et tu vas te dire, finalement, Dieu est loin de sa création. C'est ça ce qu'Abraham a pris sur lui, l'alliance. Le lieu de l'alliance, c'est le dévoilement qu'on ne peut pas découvrir par nous-mêmes. C'est ça toute la Torah. Toute la Torah, c'est que je ne suis pas tout seul. Je partage ma vie avec d'autres personnes. Ce n'est pas seulement avec sa femme, dit le Ora Chorma, de manière sublime, c'est aussi que je dois me préoccuper, pas seulement de mon problème à moi, mais de problème de mes copains. Pas seulement de ma femme, même si de mes copains. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu vis? Quelle est ta sensibilité? Ça, cette dimension de l'alliance. Donc ici, il me semble par ce texte, je vais le lire, je le relis, parce que c'est une découverte. Enfin, quand j'ai découvert ce texte, pour moi, j'ai découvert l'Amérique. J'espère que vous êtes dans le même voyage. J'espère que vous êtes dans le même voyage. Je le reprends. Klal Hayotze, principe général. Shemida Tabrit, que la dimension d'alliance, Itkashrut Ahava, c'est se nouer d'amour. Les gens du néant qui n'ont pas ces dimensions du brit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Rabbi Meir dit, si quelqu'un n'est pas dans l'étude de la Torah, instinctivement, il ne peut pas avoir l'idée de ça. Il ne peut pas avoir l'idée. On n'a pas l'idée. Parce que c'est à la fois le lieu d'une proximité, mais c'est aussi le lieu d'une pulsionnalité. Où il y a deux pulsions qui finalement, deux pulsions qui ne fonctionnent pas de la même manière, qui se fracassent. Donc c'est à la fois le lieu de la pulsionnalité et le lieu de la proximité. Mais il faut avoir l'idée que c'est pas seulement une proximité physique, mais c'est une proximité d'une découverte. Ça, c'est toute la Torah. Ça, c'est le fondement. C'est ça, le brit qu'a eu Avraham. C'est avec Avraham que va commencer à se tisser le dévoilement de qu'est-ce que Dieu, quelle est la relation à Dieu avec sa création. Je vous rapporterai un enseignement que j'ai appris de mon maître Rav Avigdor à Strasbourg. Une idée sublime. Il dit que depuis le début de la Torah, la première fois où on voit un couple qui bavarde ensemble, c'est Abraham et Sarah. Vous pouvez voir, il y a Adam, il y a Ève. Ève parle avec le serpent, mais on n'a pas vu que Ève parle avec Adam. Noé, il y a Madame Noé. Oui, elle existe, on sait qu'elle existe. On sait même comment elle s'appelle, Rashi nous dit, ce n'est pas écrit explicitement dans le texte. Comment elle s'appelle, Madame Noé, son prénom? Ezriel. J'ai des bonbons, hein. Ah, j'ai amené des bonbons pour ceux qui ont des bonnes réponses. C'est Naama. Naama, fille de Tuval Caïn, descendante de Caïn. Rachidi, parce que c'est la sœur de Tuval Caïn. Arot Tuval Caïn, Naama. C'est écrit dans le texte. Dans le texte, la sœur, dans Bereshit, la sœur de Tuval Caïn, c'est Naama. D'accord, c'est même Naama. Mais on s'en fout qu'elle s'appelle Victoria ou Naama, on s'en fout. Pourquoi c'est écrit qu'elle s'appelle Naama? Rachidi, c'est très important de savoir, parce que c'est la femme de Noé. Mais Noé, on ne voit pas qu'il bavarde avec sa femme. On ne voit pas. Le premier, on voit bavarder plusieurs fois. Et ce n'est pas toujours... c'est pas consensuel, hein. Mais il bavarde. C'est Abraham et Sarah. Et mon maître, Rav Avigdor, il dit... C'est ça le monothéisme. En quoi c'est le monothéisme? C'est ça le dévoilement de la relation entre Dieu et sa création. C'est le fait qu'il y a itkashrut ahava, qu'il y a un lien entre deux personnes, qu'il y a un dialogue, il y a une présence entre deux personnes. C'est ça le brit. C'est ça ce que ce Talmud, ce passage du Talmud que nous avons vu, qui est quand même bizarre, qui dit qu'on apprend des fondements de la Torah du coq. Fondements de la Torah. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir, premier élément. Il y a beaucoup d'autres sujets, dans énormément de sujets. J'ai coutume de dire, si je peux me permettre, que toute étude du Talmud, c'est une éducation sexuelle. Mais Alain, c'est tout à fait ce que vous dites. Moi, quand j'ai commencé à étudier le Talmud, je me suis dit, mais finalement, ce passage, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors mon chaver, qui était plus mûr que moi, et qui était marié, moi j'étais jeune homme, il me disait, mais laisse le texte s'exprimer. Laisse le texte s'exprimer. C'est une relation entre soi et le texte. On découvre le texte. Il se met à parler. Il faut le laisser parler. Pas forcément dire ses idées. Voilà, mes amis, grosso modo, il y a une petite collation, gentillette. Et puis, merci à vous. Et surtout au prochain numéro. Merci.